Alors, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles est une association qui a une mission d'intérêt général.
La minute du CIDFF.
De parler de beaucoup de sujets, de beaucoup de thèmes qui sont en relation avec vos missions.
Le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles.
Venir interroger chacun d'entre nous sur nos représentations et puis de pouvoir observer pour pouvoir peut-être bouger les choses.
Sur 48 FM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre chronique La Minute du CIDFF sur 48 FM, la dernière de l'année de ce mois de juin avant une pause estivale. Et c'est toujours Lara et Claire qui sont avec moi. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Salut.
Alors on va poursuivre sur le thème d'il y a deux semaines sur l'image du corps. Nous avions parlé des normes de beauté, de l'érotisation du corps, des normes, des critiques sur les réseaux sociaux. Et on va essayer peut-être d'aller plus loin encore aujourd'hui avec un autre critère qui est aussi compliqué que ceux d'il y a deux semaines, Lara.
Ouais, alors on voudrait vous parler un petit peu de la couleur de peau aujourd'hui et peut-être principalement du phénomène, enfin de ce qu'on va appeler la blanchité. Alors il y en a qui vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce mot ? On
c'est
n'entend
quoi
pas ça. Mais vous allez voir qu'en fait, le nommer, eh ben, ça vient révéler et ça vient ouvrir des portes qu'on n'imaginait même pas.
C'est important de mettre un mot dessus pour pouvoir se le représenter, en fait.
Exactement.
Parce que c'est un sujet. La blanchité est un sujet.
Et on parlait de la beauté, du coup, la dernière fois. Donc, peut-être une petite anecdote pour commencer. Lilian Thuram, vous voyez qui c'est ?
Oui.
l'équipe Black Blamber, tout ça. Et alors, c'est quelqu'un qui est hyper, hyper investi dans toutes les questions sur le racisme, sur la discrimination et tout ça. Et il se trouve que quand il était en équipe de France... Les gens ne connaissaient pas forcément sa conjointe et que la première fois qu'ils ont rencontré sa conjointe, la première question qu'ils lui ont posée, mais elle est noire. Et apparemment, Lilian Thuram, il est tombé de sa chaise en disant, mais qu'est-ce qu'ils ont ? C'est quoi leur problème ?
Oui.
Et en fait, il s'est mis un peu à conceptualiser et à chercher, en gros, pourquoi ça venait questionner ses partenaires de jeu que sa femme puisse être noire. Et en fait,
C'est ses partenaires de jeu qui lui posaient la question ?
C'est ça.
D'accord.
Et en fait... Concrètement, lui, les mots qu'il a mis dessus, c'est que lui, c'est un homme qui a réussi. Enfin, voilà, il a fait partie de 98, équipe champion du monde, tout ça, footballeur professionnel avec une grande carrière. Et que, en fait, quand on est un homme célèbre qui réussit, et l'image de la réussite, et ça va être de se mettre en couple quand on est un noir avec une femme blanche. Comme si la beauté ne pouvait résider que dans la couleur de peau blanche. Il ne pouvait pas se mettre avec une femme noire. Donc ça l'a profondément choqué, il a mis du temps à comprendre, mais c'est pour vous donner une idée aussi, on parlait de la catégorisation des corps la dernière fois, et qu'en fait la
hiérarchisation de la beauté,
la hiérarchisation de la beauté se fait aussi par la couleur de peau. Alors peut-être pour faire un petit peu de rappel, la question de la blanchité, elle a été pensée au début aux États-Unis, et notamment par une sociologue qui s'appelle Judith Ezekiel et qui a pensé du coup la question de la blanchité.
Est-ce que c'est pas plus ancien ? Parce qu'on en parlait dans les sociétés japonaises aussi, où les geishas et autres se mettaient beaucoup de maquillage pour être très pâle.
Il y a encore ce truc-là. Hein. Il y a même des Asiatiques qui se font opérer les yeux pour se faire débrider les yeux pour plus ressembler à des blanches. Donc ça questionne quand même sur le blanc comme étant la base, le neutre. Alors qu'en fait, historiquement parlant, à l'origine, pas tellement. Ça ne se justifie pas particulièrement. Mais il y a vraiment ce truc-là de la blancheur, la blanchité, la blancheur à tout prix. Maquillage, on le voit dans les poudres, etc.
Et en fait, cette personne-là, elle est venue, c'est un petit peu comme dans les études de genre, elle est venue, du coup, penser ça. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des phénomènes,
formuler.
Voilà, elle est venue l'expliquer de manière sociologique. Voilà. Et qu'effectivement, tu as plein de sociétés où tu as des femmes noires qui vont mettre de la crème pour se blanchir la peau. Effectivement, les exemples que tu donnais...
Quitte à se faire mal, il y a eu des produits qui ont existé pour blanchir la peau, c'était une calamité, en fait, pour la peau.
Oui, extrêmement cancérigène et autres. Alors, comment elle nous l'explique, cette sociologue ?
En fait, elle l'explique dans le fait que c'est un impensé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement
intériorisé,
et le fait que la domination et que les personnes qui dominent le monde sont de couleur blanche...
Qui dominent égale qui réussissent, malheureusement, dans notre société.
Économiquement, politiquement, culturellement, etc., etc. Que du coup, en fait, on ne pose même pas la question de, en gros, quelle est la couleur de peau de ces personnes-là ? Et en gros, si ces personnes-là sont blanches, où sont les autres ? Donc en fait, poser la question de la blanchité, de la couleur de peau blanche, ça permet aussi à des personnes qui sont pas de cette couleur de peau-là de s'exprimer par rapport à ce qu'elles ressentent. Enfin, je sais pas, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de vous, quand est-ce que vous êtes devenu blanc ? Est-ce que ça vous a même jamais traversé l'esprit ?
Jamais.
Jamais.
Voilà. Alors que concrètement, quand on est...
Alors mon cousin, si, ceci dit, j'ai une histoire quand même, petite anecdote. Mon cousin était dans une école primaire où il était un des seuls blancs. Et dans sa tête, à lui, il était noir. Il était comme tous les autres de sa classe parce que c'était le seul blanc de sa classe. Son amoureuse était noire, etc. Et régulièrement, il essayait, quand il prenait son bain, de se laver pour faire apparaître la peau noire qu'il avait en dessous de lui. Il était convaincu qu'il était noir parce que les modèles qu'il avait autour de lui étaient ceux-là.
Et en fait, c'est ça que ça vient questionner, c'est-à-dire que, enfin, et c'est là où c'est intéressant juste de le penser et d'en parler. Donc, bon, bah, il y a des grands penseurs et des universitaires qui le font, mais ne serait-ce qu'autour de soi pour avoir à prendre conscience. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé seul blanc dans un endroit rempli de personnes métisses, noires, jaunes, de toutes les couleurs. Eh bien, ça fait un drôle d'effet. Et en fait, c'est hyper intéressant dans le sens où on se met à la place de la personne qui peut ressentir un aspect minoritaire et du coup racisé.
C'est ça. Et si on en revient sur l'histoire de modèles, parce que c'est toujours important, les modèles. Hein. On l'a dit un paquet de fois, l'humain apprend par imitation et par répétition. Donc, selon les modèles, on va pas imiter la même chose. Et les modèles qu'on a sont très blancs, on va pas se mentir. Et si on parle du cinéma, il y a eu tout un mouvement qui a été nommé plus tard le whitewashing, où pour interpréter des personnages historiques de pays où on n'est pas blanc, on utilisait quand même des acteurs blancs. Que ce soit pour jouer des Asiatiques, que ce soit pour jouer des Africains, etc. Et on peut penser, par exemple, à Elizabeth Taylor dans Cléopâtre en 1963. Nous, ça nous a pas... Enfin, nous, toi et moi, on n'était pas nés, mais je veux dire, la société française ne s'est pas émue de voir une actrice blanche jouer un personnage qui n'était pas blanc. Mais par contre, quand on ramène à aujourd'hui, où c'est dans l'autre sens, on a une actrice métisse pour jouer un personnage qu'on a imaginé blanc en plus, parce que là, je parle de La Petite Sirène, et ben là, tout de suite, tout le monde réagit. Mais c'est pas normal, pourquoi ? Alors que dans l'autre sens... Personne ne questionne. On parlait tout à l'heure du Seigneur des Anneaux et des Anneaux de Pouvoir, la série, où le choix a été fait qu'il y ait des acteurs de plein d'origines différentes et de plein de couleurs de peau différentes. Et tout de suite, ça bouscule. Ça bouscule parce que dans l'imaginaire des gens qui ont lu, eh ben, ils n'ont pas imaginé comme ça. Parce que comme le disait Lara tout à l'heure, comme c'est un impensé, comme c'est intégré, quand j'imagine un personnage, si je n'ai pas d'info là-dessus, je l'imagine blanc.
Et voilà, parce que c'est pas précisé dans le livre qu'ils sont blancs ou noirs ou autres.
C'est écrit qu'il y a une diversité de races dans le monde que J.R. Tolkien a décrit, qu'il y a une diversité de races. Il va aller sur des détails physiques, sur les pieds, les grands pieds velus, la petite taille, etc. Et après, on s'en fait l'imaginaire qu'on veut. Mais j'ai envie de dire, quand il y a un livre qui est adapté, on est tous frustrés quand ça sort en film. Parce que de toute façon, ça ne ressemble pas à l'imaginaire qu'on a eu. On n'en fait pas un pataquès à chaque fois parce que, non, moi je l'imaginais un peu plus grand, moi je l'imaginais avec les cheveux plus longs. Par contre, je l'imaginais pas métisse. Voilà, ça vient pas provoquer le même truc. On a découvert Harry Potter, on était tous frustrés. Hermione est censée avoir des grandes dents qui dépassent et avoir un physique un peu ingrat. Au final, elle est toute mignonne avec des dents très alignées. Donc, il y en a qui vont se dire « Non, c'est pas très, très... » Mais on n'en fait pas le même pataquès qu'un acteur ou une actrice qui a une couleur de peau qui est pas blanche.
Mais c'est intéressant que t'en parles parce que on se disait là entre nous avant de commencer l'émission il y a eu une adaptation d'Harry Potter au théâtre il y a peu de temps et l'actrice qui a été choisie pour jouer Hermione était noire et ça a fait tout un pataquès. Il y a des gens qui sont montés au créneau en disant du wokisme, le racisme anti-blanc, c'est pas représentatif, mais c'est fait. Dans quel monde on vit ? C'est n'importe quoi. Et J.K. Rowling est montée au créneau en disant « Mais moi, j'ai jamais précisé la couleur de peau de mon personnage. » Donc, elle a pris position, ce qui est hyper intéressant, du coup, parce qu'elle est rentrée dans le débat.
Mais c'est intéressant qu'elle soit positionnée, ouais.
À la Comédie-Française, par exemple, il y a des ambivalences toujours sur quel type d'acteur on prend pour jouer quoi. Et il y a une directrice, il y a peu de temps, qui a été... un petit peu mise à mal parce que en parlant de qui elle prenait pour jouer quel rôle, elle a dit « Mais moi, j'ai des acteurs, effectivement, de la Comédie-Française qui sont noirs, mais je vais pas les prendre pour jouer le bourgeois gentilhomme de Molière. » Parce que, du coup, quand il rentre en scène, c'est toute son histoire qui rentre avec lui. Mais de quelle histoire on parle ? Et les Blancs, ils ont pas d'histoire ? Donc, concrètement, c'est un espèce d'impensé où, concrètement, les Blancs, ils auraient l'universel neutre. Ils pourraient
faire... Les Blancs, c'est la base.
Ils pourraient faire... À la rigueur, comme ils sont dans la représentation, ils peuvent, dans une forme de transcendance, ils peuvent incarner tous les personnages, mais ça ne serait pas le cas pour des personnes qui auraient une couleur de peau différente.
Donc deux poids, deux mesures. Si on se plaint qu'une actrice métisse joue La Petite Sirène, pourquoi on ne se plaint pas qu'une actrice blanche ait pu jouer Cléopâtre ? Donc voilà, c'est la question de est-ce que c'est la personne qui prime et son interprétation et son charisme, etc. Est-ce qu'elle peut interpréter comme émotion ou est-ce que c'est... seulement et d'abord son physique ou pas.
Et alors ce qui est rigolo et ce qui peut faire un petit peu un parallèle avec toutes les émissions dont on a parlé un peu cette année, c'est que en fait parler du blanc, c'est comme parler de tout ce dont on est de tout ce dont on a parlé dans les émissions. C'est rendre visible un point de vue, c'est dire en gros oui, ça existe. Enfin, on est parfois on est blanc, parfois on est noir, parfois on est jaune, parfois on est de toutes les couleurs qu'on veut. Et que du coup, le fait de le nommer et de dire ce n'est pas un neutre universel, ça permet de donner une place institutionnelle pour tous les autres points de vue minoritaires. Et que c'est rigolo parce que ce processus de un peu on sort des normes, on casse les normes, on dénaturalise les normes. Vous avez pas, ça vous invoque pas un autre combat? Le féminisme, c'est un
à
petit
peine.
Peu ça.
Voilà. C'est un petit peu
et
ça.
Et que, ben, concrètement, quand on dénaturalise les rôles de genre, quand on dit, mais il n'y a pas des choses pour les filles, il n'y a pas des choses pour les garçons, ça provoque exactement les mêmes choses. Et il peut y avoir des réactions très violentes, du coup, de personnes qui, quand on vient casser ces normes-là, disent, mais non. Oh, et puis, de toute façon, on ne peut plus rien dire.
Ouais,
et puis,
ça.
Non, mais voilà, c'est normal, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui est normal?
Et puis, l'argument de c'est pas représentatif, j'ai envie de dire, mais sortez, en fait, aujourd'hui. Qu'est-ce qui est représentatif? Et ben justement, c'est une palette de couleurs, c'est une palette de taille, c'est une palette de forme, c'est une palette de type d'amour. Enfin, il y a de tout dehors. Donc pourquoi dans un film ça devrait être au contraire tout blanc, tout ci, tout ça? Sauf si c'est, et encore, ça se questionne, quoi, justifié historiquement parlant. Mais à part ça, je veux dire, la limite, c'est celle que nous, on va mettre. Et je sais pas, pour revenir à cette histoire du blanc qui est la base, qui est le neutre et qui est un peu dans cette espèce de domination, en fait, sur les autres couleurs de peau. Je crois qu'on avait déjà parlé du test de la poupée, où on avait donné dans les années 50 ou 60, je sais plus, une poupée blanche et une poupée noire à des petites filles. Et on leur avait dit avec laquelle tu veux jouer. Et que les petites filles, soient blanches ou noires, d'ailleurs, la majorité préférait la poupée blanche parce qu'elle avait l'air plus gentille. Pour elle, la poupée
plus
blanche représentait plus d'intelligence et de gentillesse. Le test a été refait, je crois, il y a une dizaine d'années, il n'y a pas très longtemps. Les résultats sont les mêmes. C'est-à-dire que même les petites filles de couleur ont intériorisé le fait que le blanc était plus acceptable, plus valable, plus valorisé dans la société.
Être blanc, c'est encore inconsciemment être dans la réussite. Et donc, du coup, ça vient jouer sur, on parlait de la beauté des corps, ça vient jouer sur, ben, avec qui je m'autorise à être, qu'est-ce que la beauté, qu'est-ce qui est acceptable. Et puis, ben, du coup, d'une certaine manière complètement raciste, une certaine exotisation des corps de femmes de couleur. Ben, par exemple, une femme noire, elle va forcément être plus pulpeuse, elle va être...
Et puis elle est sauvage, on attend d'elle qu'elle soit sauvage. Il y a une rubrique sur les sites de porno, des rubriques sur les couleurs de peau, les rubriques des beurrettes, parce qu'on va estimer que les personnes d'origine maghrébine ont tel type de mœurs sexuelles, etc. Donc on attache une personnalité à une couleur, forcément.
Voilà. Et donc, ben voilà, nous...
Ça passe avant. C'est encore le corps qui passe avant la personnalité, la personne, en fait. C'est encore cet objet. Le corps est un objet sur lequel on met...
Des représentations. Donc, questionnez-vous. Interrogez-vous. Vous allez voir plein de peaux.
Et
de toutes les couleurs et de toutes les sortes. Plein de parties du corps. Laissez-les tranquilles.
Voilà,
et bonnes vacances.
Et vous avez l'été pour vous interroger. Et en septembre, examen, on posera des questions.
Voilà. Merci, Ludo.
Ben, merci à toutes les deux. Bonnes vacances. Et on se retrouve
à la rentrée.